Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Le podcast qui décode le stress et ses sources dans l'entreprise. Chaque épisode est une opportunité de dire stop à la charge mentale, une nécessité pour l'équilibre de chacun et la santé de tous. Je suis Magali Siméon, entrepreneure, experte du futur du travail et maman de 3 enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien.
Elle n'aime pas l'expression « bon courage ». Moi non plus, ça nous fait déjà un premier point commun. Le second point commun, c'est cette conviction que nous devons passer d'une relation transactionnelle à une relation émotionnelle entre le salarié et l'entreprise. Ça fait partie des attentes, c'est la force du relationnel et c'est ce que Mariana va nous expliquer très bien dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Mariana.
Bonjour.
Mariana, avec ce délicieux accent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis Mariana, je suis brésilienne. Ça fait 9 ans que je suis à Paris. Je suis venue ici après une opportunité de travail. J'étais marketing. Toute ma carrière était dans les marketing, CRM, sales. Jusqu'au moment que je me rendais compte, c'est l'RH qui me passionnait le plus. Ce sont mes collègues, en fait, qui me passionnent le plus. Et voilà, j'ai changé de carrière et je reste toujours à Paris. Je n'ai jamais quitté Paris. J'ai changé beaucoup de carrière, mais pas de ville.
Et alors, finalement, aujourd'hui, tu fais de l'ARH et tu as fait pendant longtemps du marketing. On parle de plus en plus de marque employeur. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait dire que pour les DRH, le salarié est devenu un client comme les autres?
Oui, je crois vraiment. Je ne sais même pas si c'est un client ou partenaire.
OK.
Parce que quand on est client, il y a quand même cette côté responsabilité vers les paiements, vers les valeurs. Je pense que ça, c'est un peu transactionnel. Quand on pense au partenaire, je pense qu'il y a cette émotion. Et cet respect entre les deux, pas qu'il n'y ait pas de respect avec les clients, c'est pas ça. Mais c'est moins transactionnel et plus relationnel et tout le monde gagne quelque part. Plus cette complicité des relations. Voilà.
Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que quand tu dis ça, moi je me dis finalement avant on était très transactionnel, c'est-à-dire je travaille, tu me payes.
Oui.
Et ce que tu es en train de dire, c'est que quand on parle aujourd'hui des nouvelles attentes des salariés, en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent justement autour de la transaction ne suffit pas. Dans le sens, j'ai besoin de la qualité de la relation et de tout ça. Et c'est ce que tu pointes là. Et en disant finalement, les salariés demandent d'être plus des partenaires, en fait, de leur employeur, plus reconnus comme ça.
Oui, je pense qu'il y a eu une transition de nous tous. Et on peut toujours dire que c'est après les Covid, mais moi, je ne crois pas trop que c'était que les Covid. Je pense qu'il y en a, on est de plus en plus en train de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Quand avant, on ne s'est même pas posé cette question. Et aujourd'hui, quand on se pose cette question, il y a plusieurs choses qui ressortent. Donc avant, c'était toujours, voilà, je travaille pour 7 salaires. Si je veux plus de salaire, et puis je travaille plus. Quand aujourd'hui, on voit que ce n'est pas tout à fait que le salaire qui compte. Et oui, on veut gagner, mais on veut aussi une qualité de vie, on veut être épanoui, on veut se développer. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette équation. Donc oui, pour répondre à ton question, je pense que oui, les salariés n'est plus dans une relation transactionnelle avec l'entreprise. Ils demandent plus et c'est une belle opportunité pour tout le monde.
Et en tant que RH, ça fait évoluer votre métier de RH?
100%.
Pour les équipes?
100%.
100%. Oui. Alors dis-moi, ça change quoi? Ça change quoi pour vous concrètement en fait?
Déjà les rôles des RH. Si on regarde les RH 5 ans avant, 10 ans avant, on était beaucoup sur l'administrative. Et là, ça colle avec la transaction. On était, les RH étaient pure et dure administrative qui quelquefois faisaient des animations, des cadeaux, des fêtes pour les collaborateurs. C'était le maximum des RH. Et on évolue sur, on poste de plus en plus d'humains et plus en plus relationnels. Ceux qui passent du temps à l'écoute, ceux qui comprennent les besoins des collaborateurs sur la profondeur, ceux qui parlent des sentiments, ceux qui parlent d'émotions, ceux qui parlent du futur. Ça, c'est pas tout à fait le même métier. Et la preuve de ça, c'est que de plus en plus, on a des gens de différents métiers qui viennent travailler dans les RH, sans nécessairement qui ont fait l'école RH. En même temps, on a des gens qui ont fait l'école des RH, qui bougent pour des autres métiers qu'ils n'ont jamais pensé dans leur vie. Donc, les RH est devenu quelque chose de plus ouverte à plusieurs compétences au-delà de cette côté administrative.
Ah oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment passé de directeur du personnel qui faisait la paye, les contrats, et qu'on est passé à une fonction animation des ressources humaines. C'est presque, on pourrait vous appeler ARH maintenant plus que DRH, c'est-à-dire, ou aussi dans les entreprises anglo-saxonnes, on parle chief of staff, c'est-à-dire vraiment le fait d'avoir des équipes et d'être celui qui les anime. Et ça, c'est intéressant comment tu le pointes. Et si tu compares de ce que tu peux voir au Brésil, la tendance est la même, la culture est la même ou il y a des différences?
La culture est différente. Alors, il y a plusieurs nuances dans cette réponse. La première, oui, la culture des bases est différente. Au Brésil, on est plus proches l'un des autres, plus informels l'un vers les autres, qui facilite cette tâche des relations. Ça veut dire, la base des entreprises, c'est la relation humaine dans les niveaux informels. On n'a pas peur de parler de notre vie, on n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, je pense qu'ici en France, on essaye. On n'est pas tout à fait là. On a beaucoup de blocages vers, non, ça c'est ma vie perso, ça c'est ma vie pro. On mélange pas. J'ai mes horaires. J'ai la loi avec moi ou contre moi. On est toujours dans cette défensive, si je peux dire comme ça. Quand on parle de travail, relation de travail. Et au Brésil, on n'a pas du tout ça. Déjà parce qu'on n'a pas de loi pour nous protéger. On n'est pas assez protégé. Mais en même temps, parce qu'on est plus relationnel comme culture. Ça, c'est la première base. Mais après, en France, quand on parle de politique RH quand même, on est plus avancé sur le bien-être, je pense. Parce que au Brésil, quand on n'est pas content avec un collaborateur, c'est horrible ça ce que je veux dire, mais au Brésil, si on n'est pas content comme entreprise, on peut virer quelqu'un deux jours au lendemain. On a les droits de faire ça. Quand en France, on n'a pas. Ça veut dire qu'on peut rester avec le collaborateur qui n'est pas engagé assez longtemps.
Oui.
Et ça, côté performance dans une entreprise, c'est horrible.
Oui.
Parce qu'il prend la place quelqu'un qui peut être trois fois plus, il ne peut rien faire.
Mm.
Donc, on a tout l'intérêt, en France, de travailler l'engagement collaborateur, de penser à différentes manières d'engager le collaborateur pour ne pas tomber dans cette piège d'avoir quelqu'un qui fait le minimum avec un salaire énorme et on ne peut rien faire.
C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que notre cadre légal qui protège les salariés en France oblige plus l'employeur à investir dans l'engagement de ses salariés parce que il est plus obligé. Alors, en tout cas, les gens peuvent rester plus longtemps et donc on a plus intérêt à ce qu'ils soient engagés. Est-ce que tu penses que peut-être que vous ayez une plus grande facilité relationnelle dans les équipes au Brésil, c'est meilleur pour le bien-être ou c'est moins bon? C'est-à-dire, est-ce que c'est un élément qui va faire que les gens sont moins stressés parce qu'ils peuvent se parler, parce qu'ils peuvent se dire les choses ou pas?
Bonne question. Oui, bien sûr, ça aide pouvoir exprimer les sentiments, ça aide à gérer les stress, spécialement si en face, on a quelqu'un qui sait traiter, parce qu'on peut dire, mais si la personne qui écoute ne sait pas quoi faire avec toutes ces informations, ça sert à rien. Donc, si on a cet échange positif, oui, mais pour moi, la sécurité du travail aide beaucoup ce niveau de stress. Donc, je pense qu'au Brésil, on est plus stressé simplement pour le fait qu'il ne s'est jamais gagné. On ne sait pas les jours des demain. Donc, on est toujours en train de chercher, de faire plus parce qu'on a peur qu'il demain, quelqu'un va dire qu'on n'a pas fait assez, donc on est viré. Et je rigole toujours parce que pour moi, quand je suis déménagée en France, moi, la phrase « mais ce n'est pas mon scope, mais ce n'est pas mon job », pour moi, ça n'existe pas.
Ouais.
Parce que pour moi, j'étais toujours poussée à faire plus parce que je voulais montrer, je voulais garder ma place, je voulais montrer que ça va le coup de me garder. On est ici, honnêtement, la majorité des gens, je ne sais pas si je peux dire ça en podcast, mais s'en fout. Parce qu'ils disent, mais ma place, elle est là. Si je fais le minimum ou le maximum, ça ne change rien. Parce que ma place, elle est là. Et je pense que c'est ça ce que les entreprises doivent considérer. Ils n'ont pas l'obligation de le faire. Mais c'est malin de les faire, parce que si on arrive à tourner la donne de ces profils-là, l'entreprise va voler.
Bah oui.
C'est développer 1000 fois plus rapide.
Pour les performances, bien sûr. Oui. Mais alors, finalement, ce stress qui existe au Brésil, est-ce que tu dirais qu'au Brésil, il y a plus de burn-out qu'en France? Alors, je ne demande pas une statistique, mais dans ton feeling.
Personnellement, ça c'est très personnel, je pense pas, pour la simple raison qu'au Brésil, la façon qui ont été élevés pour la vie professionnelle de ceux qui je vois en France.
Okay. Donc,
au Brésil, nos études sont plus larges et après, on va se spécialiser. ce qui nous permet d'essayer plusieurs domaines. Donc, oui, on peut changer de métier, mais ça fait plus de façon fluide. On n'a pas les sentiments qu'on a perdu notre historique en changeant de métier. Ce que je vois ici en France, c'est qu'on décide très tôt quel est notre chemin professionnel.
Ah oui.
Et tout tourne autour de ça. Ça veut dire que l'école que j'ai faite, c'était celui-là. C'est comme si tout était déjà prévu pour moi. Je fais cette école. Après, je vais trouver à peu près un poste qui je vais gagner X ou Y. Après 5 ans, je vais devenir ça, 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 ça. Et ce que j'entends beaucoup côté stress, sont des gens qui ne se retrouvent plus, qui ont envie de changer, mais ne savent pas comment. Sont des marchés de travail qui n'est pas assez ouvert à ceux qui ont moins d'expérience ou à ceux qui ont envie de faire cette reconversion professionnelle. Je dis toujours, pourquoi que moi j'ai réussi? Parce que mon entreprise m'a permis de faire ça. Et moi, aujourd'hui, je suis légitime de chercher un boulot côté RH. Mais si j'avais pris la décision de dire, marketing, c'est plus pour moi, maintenant je veux y aller côté RH, sans que mon entreprise me donne cette opportunité, j'aurais dû faire une nouvelle formation, une nouvelle certificat, et ça met du stress. Et je rigole, j'ai jamais vu une quantité de gens qui abandonnent tout pour devenir professeur de yoga. Je veux plus la vie corporelle, je veux devenir prof de yoga, je veux devenir coach, je veux devenir sophrologue. Donc des choses complètement alternatives. Pourquoi? Parce que ça pousse jusqu'à l'extrême, les gens. Et on décide de changer, mais je veux changer complètement de vie. J'ai même pas de carrière, je veux changer complètement de vie. Et je pense que c'est là où je vois beaucoup de stress. C'est cette question de rentrer dans ce parcours qui était déjà cadré pour moi depuis longtemps.
Non, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, et je partage, hein, moi j'ai un fils de 17 ans qui est en terminale et donc on est en train de décider de son avenir professionnel pour les 40 prochaines années. Et c'est vrai que je trouve que ça donne des conversations parfois surréalistes parce que c'est juste un garçon de 17 ans. Donc c'est encore très jeune. Et j'avais jamais fait cette analyse que je partage maintenant que tu l'as exprimée. C'est finalement, à force d'être dans une case, ça limite tellement notre potentiel qu'on a l'impression que tout ce qui on peut pas exister en dehors de la case. Et ça, effectivement, ça met beaucoup de stress, surtout si on commence à plus être très heureux dans notre case. Et c'est vrai, tu as raison. Le manque d'ouverture est très certainement génératrice de stress. C'est-à-dire, je suis pas bien là où je suis, mais quand je suis français, j'ai pas le choix, faut que j'y reste, quoi. Et ça, c'est compliqué. Je sais qu'il y a une expression qui t'a surprise quand t'es arrivée en France, qui était une expression que moi, je n'aime pas du tout, mais qui est très utilisée dans le monde professionnel. Alors, je déteste quand je l'entends, qui est « bon courage ». Pourquoi cette expression, elle t'a étonnée, toi?
Parce que ça montre jusqu'à quel degré, en France, la relation avec le travail, c'est compliqué. On n'est pas en paix avec le travail. Donc, et on accepte ça comme si c'était normal. Ah, mais je suis pas 100% heureuse, c'est normal. Et cette expression, pour moi, ça exprime exactement ça. Bon courage. Bon courage parce qu'on accepte que on va travailler et qu'on n'est pas 100% heureuse, donc bon courage. Quand pour moi, j'ai toujours aimé mon travail, j'ai toujours cru qu'on peut être heureuse au travail. Au Brésil, on était toujours, donc mes meilleurs amis sont du travail. J'ai trouvé mon mari au travail. Donc, ma vie est complètement mélangée au travail. Donc, j'ai dit toujours, j'accepte pas les gens qui disent, ah, mais de toute façon, c'est qu'on travaille. Non, non, non. C'est ton travail. C'est pas que on travaille.
Pas que.
Et quand on parle des nouvelles RH du futur, ça passe par ça. Ça passe par les gens qui comprennent que le travail, c'est plus que, ah, de toute façon, je dois y aller. Les Français adorent cette verbe. Je dois parce que je dois. Non, on peut choisir d'y aller et on peut aimer y aller. Mais il faut que l'entreprise nous aide à trouver ses sentiments.
Parle-moi des RH du futur, justement. C'est-à-dire que finalement, avec cette double vision culturelle, comment est-ce que tu penses qu'en France, une fonction RH peut aider les salariés à ouvrir un peu leur chakra et leur champ de vue? Et leur chakra, pas pour juste devenir professeur de yoga, mais pour déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans l'entreprise. Comment les RH peuvent jouer ce rôle-là dans le fait de modifier les normes établies?
Pour moi, la première réponse, c'est de comprendre que l'engagement est plus large que les salaires et que le rôle des RH est plus large que les process. Ça, c'est la première chose. À regarder les collaborateurs et savoir que chaque collaborateur a une envie différente vis-à-vis du travail, ça c'est la première. Ça pour moi, c'est l'RH du futur. Avoir cette vision individuelle, mais groupe. Et pas simplement Les procès, c'est comme ça. La loi dit que c'est comme ça. Donc, je vais appliquer tel quel. Ça, c'est la première chose. Après, quand on ouvre cet univers-là, c'est un peu la boîte de Pandora, parce qu'il y a tout qui remonte à la surface. Le rôle des RH, c'est de dire, OK, comment je peux répondre à la majorité de ces envies? Et quand je parle de majorité, je ne parle pas des 10 000 options. Je peux parler des 5. Peut-être dans ma boîte, j'ai trois gros groupes. J'ai celles et ceux qui ont envie de se développer avec nous, de développer dans l'industrie, de se développer pour devenir manager, pour grandir. Qu'est-ce que je peux offrir comme programme de talent, comme formation pour développer ces groupes? J'ai un autre groupe qui est là pour nous à cause de la flexibilité de travail et à cause, grâce à la flexibilité de travail, oh, les salaires. OK, donc je sais qui, pour ces groupes-là, il fait qui j'ai investi sur les flexibilités des jours, télétravail ou pas, mes horaires. Moi, je travaille dans l'hôtellerie, parfois c'est le planning, flexibilité de jouer avec le planning de l'hôtel, mais aussi avec les primes, avec les mérites, avec quelque chose lié, avec des task force qui aident à augmenter les salaires. Par exemple, je sais rien, mais il y a un groupe qui, c'est ça l'objectif. Il y a un autre groupe qui, l'objectif, c'est d'aider, je sais pas, la société, ou toute cette partie engagement social. Qu'est-ce que mon entreprise peut faire pour donner les sens de travail à ces groupes-là? Donc, connaître les enjeux nous amène à un RH plus personnalisé, mais aussi plus holistique, au-delà de la loi, au-delà du process. Et ça fait peur. Ça fait très, très peur, parce qu'on est très, déjà comme être humain, on a envie d'être dans notre zone de confort. Si tu me permets, comme Français, on a encore trois fois plus peur de quelque chose qui touche notre zone de confort.
Bien sûr.
Donc, ça va nous pousser à regarder des choses autrement, à regarder des situations qui on n'a aucune idée comment gérer. Donc, il y a toute cette inconnue qui s'ouvre côté RH, il faut qu'on réapprenne, si je peux dire, qu'on travaille différentes compétences. Et c'est là où je trouve que c'est beau de voir plusieurs personnes qui viennent de différents départements, différentes expériences pour devenir RH et qui va apporter une autre vision des RH. Moi, je viens du marketing, donc obligatoirement, je regarde marketing sur les côtés, comment on met en valeur tous les collaborateurs, tout ce qu'ils ont fait, comment on valorise, comment on parle. Moi, je vois, je suis dans la com. Des autres, bien sûr, okay, comment les RH apportent la performance financière, c'est un truc qui en parle assez pas. Mais gestion des RH, ça passe sur, j'amène du business.
Bien sûr.
Ça va vers le business. Et on ne parle pas beaucoup de ça. On a d'autres personnes qui vont parler plus sur, je viens du sales, donc comment je peux recruter d'une façon différente, comment je peux identifier des niches, des marchés différents. Donc chacun apporte des visions différentes et c'est ça que ça va faire la beauté des RH du futur.
Mais quand je t'entends et je trouve que c'est vraiment passionnant, c'est-à-dire ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, la dimension administrative des RH, hein, est une dimension qui est peut-être plus maîtrisée, plus automatisée aujourd'hui et encore plus peut-être avec les outils d'IA qui arrivent et que ça ouvre de l'espace pour une fonction RH où la dimension humaine est forte. Quand tu parles des groupes, moi ça me fait un peu penser aux personas qu'on a en marketing, hein, quand tu dis
Ouais.
voilà, on fait de la flexibilité mais sur 5 options, bah, c'est un peu les boîtes qui ont 5 personas. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est les RH des futurs, c'est des RH qui vont brasser des compétences de l'entreprise pour que vraiment on soit capable d'avoir une offre plus relationnelle, plus humaine, parce que la dimension technique RH va être une dimension qui sera moins forte dans le futur. C'est ça que tu nous dis?
Ça sera toujours nécessaire. On aura toujours les besoins de faire ça. Mais le poids qu'on va donner à ça, c'est ça qui, à mon avis, ça change. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en France, si on a, la loi nous dit que si on a moins de 6 mois, on arrête maladie, on arrête travail, pour X raisons, on n'est pas couverte par l'entreprise. Donc, en gros, et ça se passait avec moi, j'ai eu une appendicite, une semaine à la maison, je découvre que j'étais pas payée pendant cette semaine parce que j'avais moins de 6 mois.
Moins
Mais,
de 6 mois.
ça, c'est la loi, ça, c'est la règle, ça, c'est le process. Mais demain, non, mais moi, ce que j'ai questionné, je dis les RH du futur, c'est de dire, mais oui, mais elle n'a pas choisi ça. Est-ce qu'on sait combien ça coûte une semaine pour une personne qui n'a pas travaillé, qui n'a pas choisi d'avoir un appendicite, c'était pas à elle. Donc, moi, comme entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'accepte que ça, c'est la loi et j'ai rien fait et je me cache derrière la loi? Ou est-ce que c'est à moi de décider, de dire non, ça c'est pas correct. Si j'étais dans cette position-là, j'aimerais pas simplement être malade et ne pas recevoir mon salaire. Donc, ça sont des types de questions qu'on doit se poser et on doit améliorer. Bien sûr, en gardant la loi et être correct et faire tout ce qui est correctement, mais aussi poser des questions. Il faut nous poser des questions.
Mais ça sera ça le mot de la fin, en fait. Le DRH du futur, c'est celui qui se pose des questions.
Ouais. Mais on pose des questions en gardant en tête l'humain derrière, la personne derrière.
Oui. Eh bien, merci beaucoup, Mariana. C'était super clair. Merci.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus? Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.